avril 1917, il y a 100 ans.
L'histoire de l'humanité devient malléable. On ne subit pas seulement l'histoire, on la crée.
Avril 1917, Lénine à la manœuvre.
Je dois dire que même Lénine, quand il est venu en Russie, il a dit, il répétait, la Russie est maintenant le pays, l'état le plus libre entre les, tous les belligérants.
Entendons-nous la révolution démocratique de février, à laquelle Lénine, exilé à Zurich, n'avait pas pu participer, ouvre maintenant au groupuscule des bolcheviks de nouvelles perspectives. Dès qu'il le peut, Lénine rejoint la Russie. Les Allemands ont mis à sa disposition, sinon un wagon plombé, du moins un train qui bénéficie de l'extraterritorialité et qui le mène en Suède. Ensuite, au premier jour d'avril, il arrive à Petrograd, Saint-Pétersbourg. Marx avait dit que les révolutions étaient les locomotives de l'histoire. Une locomotive peut aussi transformer les révolutions. Le pays que Lénine retrouve vit sa libération du tsarisme à la fois dans l'enthousiasme et l'improvisation. La guerre est toujours là, faut-il la suspendre, la reprendre? Le pouvoir ou l'apparence du pouvoir est double, le gouvernement provisoire d'une part, d'autre part, l'assemblée des soviets et partout dans les provinces, la désorganisation qui gagne. Lénine revient avec dans la tête une conception tout armée du déroulement de l'avenir. L'avenir, pense-t-il, appartient au prolétariat dont il considère qu'il doit devenir dominant en Russie. Comme le prolétariat est encore démuni, il appartient à un parti conséquent de le mener vers l'insurrection armée et la victoire. Quant à Lénine lui-même, eh bien, il lui appartient de constituer ce parti. Pour l'heure, outre un noyau de camarades, il n'a guère à sa disposition que des mots. Eh bien, il va organiser les mots.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Dominique Collat. Bonjour.
Bonjour.
Lénine, une biographie, c'est chez Fayard. De même que Lénine revient en Russie, vous revenez à vos sources parce que vous avez mené il y a longtemps déjà les travaux fondateurs sur Lénine et le léninisme. On peut commencer, Dominique Collat, par un instantané. Avant son retour, il vit à Zurich depuis 2 ans, il a 47 ans, et vous le décrivez ne cessant de parler, d'écrire.
Lénine, on peut dire que à ce moment-là, quand il est à Zurich, c'est essentiellement un homme de bibliothèque. Il passe son temps à lire Marx en allemand, à lire les journaux français, anglais, allemands, à avoir des conversations et à essayer d'organiser des petites conférences, par exemple à des étudiants socialistes suisses qui sont pas très nombreux, mais il a derrière lui une longue expérience, je peux dire, de virtuose du langage. Langage écrit, langage parlé, et quand il va rentrer en Russie, il va enfin pouvoir déployer tous ses talents, en publiant beaucoup dans la Pravda, le journal officiel du parti, si je puis dire, et en parlant dans toute une série de meetings, réunions.
Mais attendez, avant qu'il ne revienne en Russie, il attend pendant des semaines de trouver le moyen de rejoindre la Russie, puisque l'Europe est en guerre. Alors, oui. Des questions classiques, Dominique Collat. Un wagon plombé ou bien un train que les Allemands affrètent et où il y a aussi des officiers allemands en même temps qu'un petit groupe de révolutionnaires qui bénéficient de l'extraterritorialité?
C'est un train qui a un statut qui conduit à l'idée de wagon plombé parce que le plomb semble indiquer une sorte de scellement, d'isolement du train. Mais en fait, c'est dans un wagon, dans un convoi qui a d'autres wagons qui sont attachés, que le train va aller de Zurich jusqu'en Suède, et puis après, évidemment, on n'est plus dans les mêmes conditions.
Il faut quand même dire que c'est un wagon non fumeur.
C'est un wagon non fumeur.
Lénine n'aime pas la fumée.
Il aime ni la fumée, ni l'alcool. Mais encore moins peut-être le tabac sur lequel il est très irrité, bien qu'il y ait une photo où on le voit côte à côte avec Staline en train de fumer, ce qui semble indiquer que Staline prenait à certains moments ses aises.
C'est quand même un train ou c'est un cheval de Troie parce que les Allemands l'ont laissé passer?
C'est un cheval de Troie parce que on voit bien la situation. Lénine est un révolutionnaire, mais ce n'est pas un révolutionnaire qui veut simplement changer le pouvoir en Russie. C'est un révolutionnaire dont la thèse fondamentale, c'est qu'il faut mettre fin à la guerre. Et les Allemands seraient bien entendu soulagés de ne plus avoir à se battre sur le long front de l'Est, les Allemands et les Autrichiens, et de pouvoir transférer leurs troupes vers la France, avec évidemment l'arrivée prochaine, ils peuvent l'imaginer, d'un corps expéditionnaire américain.
Nous sommes en avril 17 à Petrograd. Quelle est l'ambiance dans la ville? Description 50 ans plus tard par un témoin de 1967, Nina Gorfinkel. Et puis la voix que vous entendrez ensuite, c'est celle d'Alexandre Kerensky, leader à l'Assemblée des Soviets et qui jouera un rôle de plus en plus important dans les mois que nous allons raconter.
Nous sommes entrés dès le mois de mars dans l'ère processionnaire, c'est-à-dire des processions, des cortèges se formaient souvent spontanément, et puis avec un drapeau rouge, on se promenait dans les rues. Toutes sortes d'autres journées se formaient, les nouvelles fêtes révolutionnaires. Et il y avait aussi les premiers enterrements civils qui produisait une très profonde impression, parce que les enterrements civils jusque-là n'avaient jamais eu lieu en Russie. On portait les victimes de la Révolution dans des cercueils rouges, ouverts, et on chantait.
Dans cette extase de premier mois, de première semaine de la Révolution, même le journal, en ce temps, libéral, mais plus modéré qu'avant la Révolution, de M. Milyukov, le jour de l'entrée de Lénine à Pétersbourg, il a écrit ce journal représentant l'opinion libérale. Un leader socialiste, aussi généralement connu que Lénine, doit se trouver dans l'arène et il faut lui souhaiter bienvenue, quoi qu'on pense de ses opinions.
On racontait que Tcheïdze, qui était le chef de la social-démocratie, ce qu'on appelle les Mensheviks, donc cette branche de la social-démocratie qui était modérée par rapport aux bolchevistes, qu'il voulait prononcer un discours de bienvenue à la gare de Finlande, de Saint-Pétersbourg, par laquelle Lénine est arrivé, que Lénine l'a presque écarté sans faire la moindre attention à lui, qui s'est adressé directement à la foule qui s'était amassée. Il a prononcé un discours enflammé en répétant qu'on vous trompe, que la révolution reste à faire, que ce qui est arrivé n'a aucune importance, que ce n'est que le début de la vraie révolution.
Le dernier témoignage, après celui de Kerensky, c'est Georges Adamovitch, recueilli aussi par l'ORTF en 1967. Georges Adamovitch raconte donc que le leader menchevik, Tcheïdze, le président de l'Assemblée des Soviets, a fait un discours pendant lequel le bolchevik Lénine, dites-vous dans votre livre, Dominique Collat, comptait les fleurs qu'il avait reçues dans un bouquet, parce qu'il aimait les fleurs.
Il aimait les fleurs, et il y a d'autres témoignages qui montrent ce goût de cet homme qui aimait aussi les promenades à la montagne, qui avait un goût quand il vivait à Paris pour des balades dans la banlieue. Mais s'il aimait les fleurs, ce n'est pas du tout l'axe de son existence. S'il comptait les fleurs, c'est parce que le discours d'accueil qui lui a été délivré appelait à un approfondissement de la révolution démocratique. Et lui, dans sa réponse à Tchekidze, il affirme que la révolution russe est la première étape d'une guerre civile qui va embraser toute l'Europe. Et c'est dans cette perspective qu'il se place, en tout cas il affirme une prochaine révolution dans la révolution en Allemagne notamment, ce qui fonde les espoirs d'une radicalisation de la révolution russe. Si la révolution va avoir lieu en Allemagne, c'est la guerre qui va se terminer, c'est le monde entier qui va être bouleversé et on va pouvoir passer au socialisme.
C'est un homme de mots, dites-vous, Dominique Colola, vous insistez constamment dans votre livre sur cet aspect. C'est un homme aussi qui définit, je ne sais pas si ce sont les perspectives, des seuils, des passages, des étapes. C'est le sens d'un texte qu'il avait médité dans son train extraterritorial qui s'appelle « Les thèses d'avril » et qu'il diffuse ensuite dans la Pravda, dans le journal des bolcheviks. Seuil, passage.
Seuil, passage, transition, étape. Lénine voit dans la révolution qui s'est déroulée en février un écroulement évidemment du tsarisme, mais il le voit comme une première étape. Il n'imagine pas qu'il faille maintenant s'installer dans un régime de type républicain où on instaurerait les libertés fondamentales, la liberté de presse, la liberté d'association, le droit de grève, etc. Ce qu'il imagine, c'est que très rapidement, on va pouvoir passer à une autre phase qui va consister à une nationalisation de l'économie, une abolition du capitalisme et la prise du pouvoir par le parti.
Il faut mettre des mots sur les seuils. Il a été en France, vous l'avez expliqué, il a beaucoup réfléchi sur la commune. Un des seuils, c'est le mot qu'il utilise au printemps 17, c'est l'État commune.
Oui, parce que Lénine, et c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la bibliothèque, Lénine vient de passer beaucoup de temps à lire des textes de Marx, où Marx exaltait la commune, il faisait de la commune la vision d'une sorte de montée de la force révolutionnaire, mettant en quelque sorte entre parenthèses la défaite de la commune. Mais Lénine retient de la commune qu'elle a voulu que le peuple soit en armes, on a aboli le parlementarisme, on a supprimé les fonctionnaires on a donc transformé radicalement les rapports sociaux et les rapports politiques. Et lui espère que on va approfondir en Russie la désorganisation notamment de l'armée qui va créer une sorte de démocratie directe, mais j'ajouterai immédiatement que Lénine, au même moment, pense qu'il faut aussi développer, renforcer le parti.
Alors l'armée, la désorganisation de l'armée peut avoir un effet révolutionnaire. À Paris, il lui arrivait d'aller au spectacle, il n'aimait pas beaucoup la musique.
Il aimait la musique à condition qu'elle ne l'émeuve pas trop. Et donc, il préférait une musique un peu martiale ou révolutionnaire que la passionata de Beethoven, dont il craignait que ça l'alanguisse.
Fasse couler des larmes. Alors, il a assisté à un spectacle revigorant à Paris. C'est un extrait du film Lénine à Paris, qui date de 81, avec dans le rôle de la maîtresse, parce qu'il aimait aussi d'autres femmes que la Krupskaya, Claude Jade, qui joue Inès Armand. Ils sont là au premier rang, et nous sommes peu de temps après l'insurrection, la mutinerie du 17e régiment qui stationnait à Béziers et qui avait rejoint les viticulteurs en grève.
Et voici maintenant celui que mon cœur a choisi, Mandu !
Kanze Anaspil.
Espérons qu'un jour viendra en France où la paix, la concorde régnera. Ayons tous au cœur cette espérance que bientôt ce grand jour viendra. Vous avez jeté la première graine dans le sillon de l'humanité. La récolte sera prochaine et ce jour-là vous serez tous fêtés. Salut, salut à vous, bravo soldats du 17e. Salut, bravo Piu-Piu, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Lénine, en avril 1917, est revenu à Petrograd. La guerre est toujours là, même si les activités sont largement suspendues. Quel mot faut-il utiliser, Dominique Collard, vu publier un Lénine chez Fayard, à l'occasion qu'on vient de citer, pour désigner l'état de l'armée? Décomposition, désorganisation, désertion, implosion.
On pourrait peut-être souligner l'importance des désertions. Elles sont très difficiles à chiffrer, mais elles sont extrêmement nombreuses et elles vont s'accentuer pendant l'été 17. C'est une armée où il y a des mesures qu'on peut dire démocratiques qui ont été prises, mais ces mesures démocratiques, elles tendent évidemment à affaiblir la chaîne de commandement. Les soldats ont bénéficié d'une sorte de droit à une auto-organisation limitée. Ils peuvent refuser d'obéir à certains ordres. Et les conditions de la guerre, pour ceux qui sont dans les tranchées, elles sont aussi difficiles sur le front russe que pour les Français. Hein. C'est-à-dire que c'est une guerre on a pu souligner la brutalité, les gaz de combat, les tranchées, les très nombreuses victimes, les blessés, et peut-être plus encore, les arrières de russes sont moins capables de gérer cette masse de soldats meurtris par la guerre.
L'approvisionnement vient mal.
L'approvisionnement, la logistique est extrêmement compliquée dans cet immense pays et dont on sait la rudesse des hivers.
Kerensky, qu'on a entendu tout à l'heure, est devenu le ministre de la guerre d'un gouvernement de coalition qui s'est constitué sans, bien sûr, les bolcheviks. Et il va essayer, par la seule force de son mot, parce que lui aussi croit à la puissance de la parole, de rassembler ce qui se défait. Kerensky, petit portrait physique.
Oh, c'est un homme assez grand, mince, souvent vêtu, quand il est ministre de la guerre, d'une sorte d'uniforme militaire.
Qu'il s'est confectionné, qui n'existe que pour lui.
Et Lénine le déteste. Il est plus jeune que Lénine. Lénine a suivi sa carrière. Et il le surnomme, dans certains de ses textes, Lénine le surnomme le joueur de balalaïka, ce qui n'est pas du tout, pour un ministre de la guerre, ce qu'on attend de lui.
Bah, il joue sur le sentiment de ceux qui l'écoutent. On va entendre un extrait d'un de ses discours. Et puis après, le témoignage de Pierre Pascal, qui appartenait alors à la mission militaire française de Petrograd.
Camarades, depuis 10 ans, vous avez su souffrir et être silencieux. Comment remplir les obligations que vous imposait un régime haï? Vous saviez comment tirer sur le peuple quand le régime le demandait. Et que se passe-t-il maintenant? Ne pourriez-vous souffrir plus longtemps? Ou bien est-ce que la libre Russie est devenue un état d'esclaves en révolte?
Kerensky était un orateur infatigable. Un orateur frénétique et ayant certainement beaucoup de prenants. Très prenant. Donc Kerensky visite un régiment, il y fait un discours, comme d'habitude. Il faisait dans la journée 4 ou 5 discours, des discours aussi ardents que celui que j'avais entendu. Donc il fait son discours et il dit que les soldats doivent se battre, au moins pour défendre leur liberté, pour défendre la terre qu'ils ont conquise. Et alors un jeune soldat l'interrompt en disant « Et si je suis tué ?» Qu'est-ce que ça me fait à moi, la liberté et la terre? Alors Kerensky monte sur ses grands chevaux, écrase le soldat de mépris, le traite de lâche devant tous ses camarades, si bien que le soldat tombe comme foudroyé, en tout cas privé de connaissance.
Ouais, mais c'est pas exactement le résultat escompté, parce que Kerensky voudrait bien que le soldat court en face de l'ennemi. Ils tentent d'ailleurs de lancer des offensives qui ne vont être que des feux de paille au mois de juin 1917.
Il y a des débats très nombreux chez les révolutionnaires russes sur la conduite de la guerre. Certains seraient pour qu'on la suspende en quelque sorte, d'autres qui sont à la fois des révolutionnaires démocrates et des nationalistes voudrait que l'armée reparte en quelque sorte à l'attaque. Et c'est ce qui va se passer en...
À partir de juin.
En juin, et ça va être une catastrophe.
Ouais.
Ça va être une catastrophe. Il y a des centaines de milliers de soldats qui sont tués, blessés ou faits prisonniers. Et cet échec d'une offensive russe va...
Précipiter le développement du parti bolchevique. Alors, justement, puisque vous parlez du nombre des morts, les bolcheviques qui doivent se préparer à mourir pour la révolution, à entendre Lénine, combien sont-ils la fin juin? Où sont-ils? Quelles sont leurs forces?
Ils sont quelques dizaines de milliers. Ils sont essentiellement dans les deux grandes capitales, Moscou et Petrograd. Et il y en a dans d'autres cités industrielles, notamment dans une grande ville textile qui est au sud de Moscou. Ils sont absolument pas dans les campagnes. Il n'y a pas de bolcheviques qui soient des paysans. Il y en a, mais il y en a dans certains milieux intellectuels, mais par exemple pas chez les instituteurs, pas chez les typographes qui sont plutôt mencheviques, l'autre tendance de la social-démocratie russe. Mais ce qui compte peut-être pour Lénine, de son point de vue, ce n'est pas tant le nombre des militants du parti, mais leur cohésion, leur unité. Il parle sans cesse de la volonté unique. Il voudrait que le parti soit comme un bloc et qui obéisse à un petit état-major, dont il est évidemment le leader par son prestige et ses compétences et sa virtuosité, et que cette petit état-major arrive à entraîner quelques milliers de bolcheviques. Et c'est du reste ce qui va se passer dans les mois qui viennent.
Oui, mais non sans des échecs et des retours en arrière. Pendant que les nouvelles du front deviennent mauvaises pour le gouvernement provisoire, 3 et 4 juillet 1917, se déclenchent de grandes manifestations de soldats en colère que rejoignent des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, comme c'est la tradition depuis le mois de février. Aux avant-postes de ces manifestations, il y a sans doute les bolcheviques, encore que Lénine est à la campagne quand les manifestations se déclenchent, mais il y a aussi des anarchistes, et puis il y a un autre parti, une tendance de gauche d'un autre parti, le Parti Socialiste Révolutionnaire. Celui qu'on entend une dernière fois, Georges Adamovitch, est plutôt un libéral.
C'était la première émeute bolcheviste, qui a duré un ou deux jours, 24 heures, quelque chose comme ça. Et là, ça a effrayé tout le monde, cette bourgeoisie à laquelle j'appartenais. Parce qu'on idéalisait le moujik russe, le paysan, les soldats, les ouvriers. On croyait, oui, ce sont des humbles, oui, ils n'ont pas d'argent, nous sommes un peu plus favorisés que par le sort, mais enfin, c'est toujours les Russes, on est tous amis, on est tous frères, enfin. On ne comprenait pas qu'il peut y avoir une haine de classe. Et cette émeute du début de juillet, je me souviens, les visages, les physionomies de ces jeunes bolcheviques, de ces jeunes gardes rouges, comme on les appelait, plein de haine, justement, contre les bourgeois qui tiraient contre eux, qui se défendaient, enfin, dans ces bagarres qui ont éclaté, on sentait justement quelque chose d'implacable, une haine sans issue, qu'on a senti pour la première fois.
Stupéfaction devant cette stratégie, classe contre classe, quoi.
C'est un affrontement d'une grande violence dans le centre de Saint-Pétersbourg, Petrograd plus exactement. Il y a une très grande avenue, la Prospekt Nevski, la perspective Nevski, et il y a sur cette avenue des tirs qui sont échangés. Les soldats qui manifestent ne sont pas venus les mains nues, ils sont armés. Et en même temps, il y a des femmes, des enfants, des fanfares, des banderoles. C'est une manifestation gigantesque. Il y a des dizaines de milliers de manifestants, et non seulement un jour, mais deux jours. Est-ce que les bolcheviques voulaient à ce moment-là prendre le pouvoir, c'est-à-dire s'emparer du lieu où siégeaient les soviets pour transformer la dynamique de la révolution vers le socialisme, ou est-ce qu'ils ont été débordés en quelque sorte par l'impatience de la foule? C'est difficile de savoir. En tout cas, Lénine a été très prudent. Il a compris que s'il prenait le pouvoir à ce moment-là, il risquait de ne pas le garder. Et sa stratégie, qui vient d'une analyse de ce qui s'est passé pendant la Commune de Paris, c'est que non seulement il faut prendre le pouvoir, mais il faut prendre le pouvoir et être offensif pour anticiper en quelque sorte sur la montée de la contre-révolution.
Alors la contre-révolution, répression, arrestation, la Pravda mise à sac, y compris son imprimerie, et Lénine qui pendant un moment défend la liberté de la presse avec des guillemets, et on va s'arrêter là dans le suspense. Il rentre au sous-sol de la clandestinité.
Et oui, il est obligé parce que au même moment où il y a cet échec de cette insurrection de juillet, le gouvernement provisoire relance une campagne d'accusation selon laquelle Lénine serait un espion payé par l'Allemagne. Et il est quand même, si je puis dire, embarrassé par le voyage qu'il a effectué dans ce wagon soi-disant plombé, bénéficiant de l'extraterritorialité, pour revenir de Zurich en Russie. Donc, il craint d'être arrêté et il va décider, après quelques hésitations, à partir en Finlande. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ?
Qu'est-ce qu'il fait l'été 17 ? Et où est-il ?
Ah, il est d'abord dans les faubourgs de Saint-Pétersbourg et puis il va aller jusqu'à Helsinki. Mais entre-temps, il a fait une halte assez longue dans une région où il y avait beaucoup de moustiques. Hein, propice à ça, la chaleur de l'été russe, les étangs, mais il écrit.
Dans sa cabane en rondin, il écrit.
Il écrit un ouvrage qui s'appelle « L'État et la Révolution », qui va devenir, si je puis dire, un des évangiles du communisme et que Lénine considérera comme crucial pour son œuvre. Mais, outre le fait qu'il écrit, il commande au parti qu'il essaye de renforcer, et avec comme but une insurrection et une instauration de la dictature du parti.
La suite, au mois d'octobre, Dominique Collat, votre livre chez Fayard vient de paraître. Cette émission a été réalisée par Gaëtan Colli, à la technique Théo Gomard et Nicolas Delmas, Frédéric Martin, Franck Livard, Inka Negulesco et Nathan Gallo dans l'équipe. Il se méfiait beaucoup de la sensibilité, Lénine, camarade Vidard.
Était-il doué d'empathie ?
Il la manipulait peut-être.
Eh bien comme nous, c'est ce qu'on va faire en tout cas. On va expliquer la manipulation de l'empathie avec mes invités, Jean.
Merci.